Voilà, donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas entendu les messages précédents. Nous sommes situés à l'espace bar pour la rencontre du jour. Aujourd'hui, c'est l'homme de radio, l'homme de musique, Marc Isaïe, qui nous fait le plaisir de venir chez Filigrane. Alors faites-nous le plaisir de nous rejoindre et également pour cette rencontre du jour. Marc Isaïe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous à la veille de ce grand week-end. Il fait beau dehors. C'est vrai que vous, finalement, les longues files de voitures le dimanche quand il fait beau pour aller à la mer, vous ne les connaissez pas puisqu'en général, vous êtes tous les dimanches à la radio. Donc ça, c'est un petit peu le côté, la face cachée d'une belle réussite, d'une belle carrière à l'RTBF avec comme chiffre fétiche 21. Alors pour débuter cette rencontre, j'ai envie de vous demander, vous vous sentez le plus à l'aise avec un micro en main ou avec un stylo ?
Ben, je pense que je ne surprendrai personne en disant que c'est avec un micro, évidemment. Hein, ça n'a pas été facile de faire ça, ça a duré longtemps. Mais maintenant que le livre est sorti, d'autant plus que... D'après l'éditeur, ce bouquin fonctionne bien. J'en suis évidemment ravi, j'en suis le premier surpris et c'est vraiment. Je suis tout à fait sincère en disant cela. Mais je le disais tout à l'heure à Astrid, je serais ravi peut-être d'envisager d'en faire un second.
Voilà, donc, Astrid,
peut-être.
Cher Astrid, qui nous l'a confirmé, effectivement, votre livre fonctionne bien, comme votre émission mythique, les classiques du dimanche. Mais finalement, que ce soit avec un micro ou avec un stylo, Marc Isaïe, c'est la même passion qui vous anime, l'envie de partager, de raconter, d'expliquer, de resituer les choses. C'est ce que vous faites dans votre émission, mais c'est ce que vous faites également dans ce livre, où vous vous racontez et vous racontez les autres.
Oui, c'est ça. Je crois que moi, j'ai toujours fait une grande différence entre le fait de partager une passion que j'ai pour la musique en général et pour un certain type de musique en particulier. Mais je n'ai jamais voulu, dans ma carrière, prétendre être un professeur qui viendrait donner des cours ex cathedra sur une estrade à une bande d'abrutis qui ne connaissent rien. Ça, moi, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, moi, j'étais vraiment, et je le suis toujours, passionné. Et il y a vraiment des choses qui sont tellement extraordinaires dans toute cette musique qui est né pour faire court dans les années 50 et qui a enflammé, je dirais, la période 65-75, où tout ce dont on a hérité aujourd'hui, je pense une grosse partie, y compris le rap, ça vient de là aussi, est tellement passionnant, c'est tellement intéressant, c'est tellement riche que je pense que je n'aurai pas assez de tout ce qui me reste à vivre pour aller flirter là-dedans. Donc, et avec la SIG 21 et avec mon émission que j'ai la chance d'animer tous les dimanches depuis maintenant plus de 20 ans, je n'ai jamais eu la prétention de dire c'était mieux avant. Je laisse ça à certains camarades très nostalgiques qui font de la radio aussi. C'est pas vrai que c'était mieux avant. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'expliquer comment c'était avant. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et pourquoi c'était comme ça, par exemple, pourquoi, je sais pas, je prends comme exemple, pourquoi dans les années 60 aux États-Unis, en 69, les hippies se mettent hors la société. Ceux qui ont des sous vont à Katmandou, ceux qui n'en ont pas fument des pétards, mais ce qu'ils veulent, c'est partir. Et pourquoi en Angleterre, les punks vont faire exactement le contraire ? Les hippies rejettent la société, les punks vont faire le contraire en disant « Nous sommes dans la société, nous n'avons pas de futur, c'est le néo-futur, vous devez vous occuper de nous. » Voilà, ça c'est vraiment intéressant de resituer les choses comme ça.
Et puis cette musique des années 60, des années 70, pour vous est la musique la plus intéressante puisque c'est pratiquement là où tout a été inventé, c'est votre moteur, c'est votre passion, on l'a bien compris, votre moteur c'est également l'émotion que vous nous partagez. Alors on vous découvre également à travers ce livre, parce qu'on pourrait dire finalement c'est la version papier de votre émission Les Classiques, puisque vous nous racontez votre vie, votre carrière, et là on découvre finalement un Marc Isaïe assez Gaston Lagaffe, et je dirais heureusement que Marc Isaïe a été Gaston Lagaffe à une certaine époque avant de rentrer à la RTBF, parce que sinon on n'aurait pas eu la carrière que l'on connaît. Quand vous étiez finalement à un certain moment donné camionneur pour un célèbre magasin, on peut le citer puisque maintenant il est devenu sous enseigne française comme tout ce qui part en Belgique, c'était GB, on ne signera pas la nouvelle marque, et finalement
si c'est Carrefour, je pense.
Voilà, c'est
tout le monde a compris.
Carrefour. Le livre est également en vente chez Carrefour, peut-être. Et donc, voilà, là, c'est une anecdote assez
rigolote. Oui, ben ça fait partie des choses et des idioties qu'on peut faire dans la vie. C'est un moment où je suis arrivé à la fin de Machiavel, enfin, je le raconte dans mon bouquin. Et la fin de Machiavel a été très pénible pour moi en 82, d'une part, parce que d'abord, le groupe avec lequel j'avais eu tant de bonheur, tant de succès aussi, appelons un chat, n'existait plus. Je me suis rendu compte qu'on avait été extrêmement mal managé, j'étais ruiné. Et en plus, cette année-là, je me suis retrouvé veuf, avec ma petite fille qui avait 4 ans à l'époque. Mon épouse a eu un accident, bon, voilà, c'est des choses atroces qui arrivent, mais ça arrive. Donc je me suis retrouvé ruiné, veuf et avec plus Machiavel. Et donc j'ai fait n'importe quoi en me disant il faut que je trouve du boulot. Et la première annonce que j'ai vue dans la presse, c'est chercher un camion, un type pour conduire des camions. Je ne savais pas que c'était chez GB, il s'est fait que j'avais passé mon permis de camion. Et alors, ben, ça, je vous renvoie au livre, vous allez tous bien rire, parce que je pense qu'en une après-midi, j'ai démoli le camion, un mur, 3 voitures, 500 bouteilles de lait. Enfin, vous verrez ça dans le livre, vous allez bien vous amuser. Et je me suis très très rapidement rendu compte que je n'étais pas vraiment fait pour ça. Et quelques jours plus tard, j'entrais à la RTBF.
Voilà, et c'était le début de la carrière à la RTBF. Alors vous l'avez dit juste avant, c'était quand même un groupe mythique, le premier groupe belge à avoir fait Forêt Nationale, Machiavel. Ce qui était également une grande première, c'était que vous-même, la veille du concert, vous étiez en train de mettre les affiches pour le concert à Forêt Nationale. Parce que comme vous l'avez dit, finalement, ce qui a manqué à Machiavel, c'était un bon manager, des bonnes personnes pour vous aider, pour vous encadrer, pour gérer les différends entre vous.
Oui, c'est-à-dire que nous avons un petit peu essuyé les plâtres avec ce groupe au niveau belge, en tous les cas, parce qu'il faut se remettre à 30 ans ou 35 ans d'ici. Il n'y avait pas de circuit comme aujourd'hui, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas les gens qui conduisaient les groupes. Donc on était un petit peu livrés à nous-mêmes et on a fait beaucoup de... C'était pas des bêtises, c'était des erreurs par manque d'informations. Et puis, on a été très très mal managés, effectivement. On n'a jamais su s'entourer... On n'a jamais pu, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, un groupe comme Machiavel aurait eu beaucoup plus de chances de s'imposer internationalement, ce qui nous a manqué. Et puis surtout, de mieux gérer cet immense succès qu'on a eu ici, qui a été compliqué à gérer pour nous. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'Albert Lotecheur, qui est parti il y a 3 ans maintenant, malheureusement, nous a quittés au mois de mai, c'est à peu près 3 ans maintenant. Mais il faisait du taxi. Et bon, moi, j'ai eu la chance de me débrouiller en faisant autre chose. Mais c'est vrai qu'on était tellement peu confiants dans les structures que la veille du concert, on jouait en Forêt Nationale à bureau fermé, on collait encore des affiches nous-mêmes dans la rue. Et on était reconnus par des fans. C'est rigolo, les mecs, ils n'en revenaient pas, quoi. Et le lendemain du concert, Albert était dans son taxi et il trimballait à Bruxelles des mecs qu'il avait vus la veille à Forêt qu'on ne comprenait pas vraiment. Or, ça, c'était une réalité. C'était comme ça il y a 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les mecs de Deus ou de Girls in Hawaii ne doivent plus faire ce genre de choses. Mais nous, on l'a fait parce que c'était comme ça. Et que les rares fois où on a gagné... Parce que ce qui est caractéristique à l'histoire de Machiavel, et moi, j'ai aucun regret, hein, j'ai aucune animosité, je ne suis pas du tout aigri. On a eu tous les succès du monde, mais on n'a jamais eu d'argent. Parce qu'on a été très mal entouré, et que quand on a gagné, on le dépensait à faire n'importe quoi. Donc on a Tout ça a été très très mal géré il y a une trentaine d'années. Quoi.
On est bien dans l'ambiance de rock'n'roll où tout s'enflamme. Alors Marc Isaïe, c'est vrai que vous racontez Machiavel, l'histoire qui est passionnante avec les meilleurs moments. Les meilleurs moments, c'est également le Cirque Royal, là où vous avez joué. On vous demande, on vous supplie presque de retourner sur scène pour éviter les émeutes avec la touche d'émotion, parce que c'est là également au Cirque Royal, quand vous étiez petit, que vous avez reçu votre diplôme du bourgmestre de Bruxelles.
Oui, je ne sais pas si on a qui se souviennent de ça, mais dans les années 50 et 60, à la fin de l'année, moi j'étais à l'Athénée Lyon-Lepage, donc il y avait Robert Cato, Lyon-Lepage, il y avait toutes ces écoles, voilà. Et à la fin de l'année, on recevait le bulletin, vous voyez, des mains du bourgmestre, je me souviens, quand moi j'étais petit, il s'appelait Lyon-Cormance, voilà. Bon. Alors après, évidemment, quand le groupe a commencé à fonctionner, le Cirque Royal reste pour moi mon plus beau souvenir, parce que d'une part, on a vécu une aventure qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui, dans la mesure où il y a 1700 places au Cirque Royal et qu'on a mis ce soir-là 2800 personnes. On ne verra plus jamais ça, puisque maintenant les mesures de sécurité sont très strictes. Et ce concert était inouï parce qu'on a reçu notre premier disque d'or sur scène. On ne savait pas qu'on était disque d'or. Le public est devenu fou parce que ce n'était pas notre disque d'or, c'était le leur. C'était formidable. Et donc il y a eu une espèce d'engouement. On est revenu 6 fois, ce qui était déjà un exploit. Et puis on est retourné dans les loges et les gens ne sont pas partis. Ils nous ont rappelé pendant 40 minutes, lumière allumée dans la salle. Ça, c'est un truc qu'on ne voit plus ou non plus. Et c'est le commissaire en chef de la ville de Bruxelles, je ne sais pas comment ça s'appelait, ce brave monsieur, avec Elisabeth Kind, qui était la gérante à l'époque du Cirque Royal, qui est venu nous demander de revenir une dernière fois, parce que les gens ne partaient pas. Et je me rends compte maintenant, il lui suffit de 2 fois rien pour que ça tourne au drame, parce que 2800 personnes dans une salle qui est faite pour 1700, donc c'était très très dangereux. Et alors ce qui était tout à fait fou, il y a des photos qui en attestent, il y avait tellement de monde que pour finir ils avaient mis des gens sur la scène. Donc moi j'avais des mecs derrière moi, Enfin, c'était vraiment un truc. Mais bon, voilà, c'est des choses de souvenirs.
Alors, c'était une belle aventure que vous nous racontez à travers votre livre, avec un clin d'œil plein d'humour, finalement, de demander de nous donner comme préface Gilles Verlan, qui déclare en 1977 « Je détestais Machiavel ».
Oui, je trouvais ça très drôle, moi, qui commençait la préface comme ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui venait d'un autre univers, pourtant on n'a que 2 ans d'écart. Et moi, je suis arrivé à un moment où c'est tout à fait surprenant, j'en parle dans le livre, j'ai eu ce sentiment, à 21 ans, j'étais quand même pas vraiment vieux, hein, 21 ans, on n'est pas vieux, d'être déjà considéré comme un has-been, un vieux con, parce que j'aimais bien Genesis, Pink Floyd et tous ces groupes-là. Et qu'en 76-77, donc moi j'avais à ce moment-là effectivement 21 ans ou 22 ans, c'était plus du tout à la mode. Il fallait aimer Sex Pistols, ce que je détestais. Moi j'aimais pas les punks, tout ça, je détestais ça. J'aimais bien la. Et donc voilà, il y a eu une espèce de. Donc très vite, il y a eu une distanciation entre des gens qui se sont éloignés intellectuellement et musicalement très fort, alors qu'au niveau de l'âge, ils avaient le même âge. Donc c'est assez particulier. Bon, après, c'est rentré dans l'ordre. Gilles était un ami. D'ailleurs, je viens de l'engager dans ma radio pour une émission sur les années 80. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais je trouvais ça très drôle qu'il commence la prépasse.
Voilà, 21, vous êtes toujours aujourd'hui à travers votre émission et vous en êtes même le directeur. Finalement, j'évoquais le côté Gaston Lagaffe. Il y a également un côté bluffeur en vous. Parce qu'on peut dire que toute votre vie a commencé par un grand coup de bluff quand vous étiez adolescent et qu'un jour, il y a un ami qui vous demande « Est-ce que tu peux faire de la batterie pour nous ?» Vous n'en avez jamais fait, vous ne connaissez pas, vous dites « Oui, j'y vais ».
Oui, c'est un peu ça, mais c'est pire que ça. Oui. Enfin bon, enfin, ça vous intéresse que je vous raconte ça, oui. Non, mais enfin, vous le verrez dans le livre, vous allez pas prendre...
Il y a quand même une chouette image, on peut dire, parce que là, je veux dire, votre maman, au lieu de mettre dans le droit chemin, elle se dit « C'est pas grave, c'est joli de sa part », elle vous achète une batterie, et c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à apprendre et à...
Oui, ma mère est quelqu'un qui a été très important pour moi parce qu'elle était comédienne et donc elle avait ce côté un peu artiste, un peu folle dingue. Et en deux mots, moi je me vantais quand j'avais 15 ans d'être batteur dans un groupe de rock. Voyez. Je dirais à tout le monde, ouais, moi je suis batteur les gars. En fait, j'avais envie d'être batteur, mais je n'étais pas batteur du tout, je n'avais pas joué, j'avais même pas de batterie. Hein, mais je me la pétais, alors sérieux, hein, c'était bon. Et un jour, pas de bol, il y a un mec qui est dans mon école. Qui n'est pas dans ma classe, qui est un peu plus âgé, qui me dit « Tiens, viens au fond, toi tu joues de la batterie, écoute, on a un super concert à l'école et tout samedi, donc genre on est mardi, hein. Samedi, est-ce que tu peux pas remplacer notre batteur puisque tu joues et tout ?» Et là, c'est vraiment un moment décisif de ma vie où le dire non, on est en week-end à la mer, je dis « Ouais, sûr, vieux, je vais venir. » Voilà. Et donc, ça c'est vrai, c'est un trait de ma personnalité, j'ai jamais eu peur de rien. Sauf que je me suis senti quand même un peu mal. Hein, parce que je suis rentré le soir à la maison, j'ai été trouver ma mère, je lui ai dit « Écoute, maman, voilà ce que j'ai fait. » Et ma mère, si elle avait été une mère normale, m'aurait dit « Écoute, petit con, tu assumes tes conneries et tu t'expliques le lendemain. » Elle m'a dit « Ah ouais, ok, ça va, on va l'acheter une batterie. » Mais résultat des courses, je suis arrivé, je vous passe les détails, la batterie qui n'était pas prête et tout, je l'ai eu que le jour même du concert, je ne savais pas la monter, je n'avais jamais vu une batterie. Alors les mecs, déjà, ils me regardent en disant à leur copain, dit « T'es sûr, ton batteur, là, ça va aller ?» Parce que « Ouais, bon. » Et en fait, ça a été évidemment une catastrophe, ce concert. J'ai juste pu faire plus. Enfin, j'étais ridicule. Je ne savais pas jouer. Hein. Je savais tenir un tempo, mais voilà, je ne savais pas jouer. Et ça m'a tellement été loin, ça m'a tellement blessé, finalement, dans mon amour propre, hein, de sale gamin prétentieux que j'étais, que je me suis dit, bon, maintenant, mon petit gars, tu vas vraiment apprendre. Et en fait, j'ai vraiment appris à jouer à partir de ce moment-là. Mais si j'avais dit non, simplement, ce jour-là, dans la cour de récréation, je me souviens, j'étais à l'Athénée Royale de Laeken, je crois, Rima et Christine. Si j'avais dit non, ce jour-là, ma vie eût été certainement fort différente, parce que j'aurais pas été musicien, sans doute, et j'aurais pas fait après de la radio. Voilà, j'aurais fait sans doute autre chose. Mais
vous avez osé, comme finalement la première de vos émissions le dimanche avec vos classiques, où finalement au départ c'était également presque un coup de bluff, puisque c'était pour vous faire plaisir, c'était votre anniversaire, donc vous aviez programmé la musique que vous aimiez, sans imaginer que ça allait devenir un standard et une référence.
Oui, c'est exact. Donc, voilà, bon, vous verrez ça dans le détail dans le livre, mais Claude Lacroix m'avait confié la responsabilité des émissions du week-end. Et le premier jour, forcément le week-end en général, il y a 2 jours, c'est le samedi et le dimanche. C'était déjà comme ça il y a 30 ans. Et donc, le samedi, c'est bien passé. Le dimanche matin, je me suis dit, tiens, finalement, on est le 3 janvier. C'était mon anniversaire. Je me suis dit, je suis le 3 janvier. Je me suis dit, putain, pendant une heure, je vais me faire plaisir. En me disant, on verra bien, comme d'habitude, on verra bien. Et alors, à l'heure de la messe, j'ai commencé de balancer Led Zeppelin, Black Sabbath, machin, en fait, tous ces trucs-là, tous ces grands groupes qui étaient plus du tout dans l'air du temps. C'était en 88. Donc, on était en plein New Wave, machin, tout ça. Bon. Et moi, je suis arrivé avec ça en balançant Pink Floyd, et ça a eu, la première semaine, la première émission, il y a un succès fou. Je me suis dit, ah, bon, ok. J'ai remis le couvert la semaine d'après, puis la suivante, et puis on est passé à 2h, puis 3h, puis ça fait 21 ans, là, maintenant, que je fais ça le dimanche matin. Et je suis très, très heureux du succès de l'émission, parce qu'il y a une espèce de pérennité, comme ça, qui a été assurée. Je me suis toujours dit, le jour où elle ne marchera plus, j'arrêterai cette émission. Mais là, j'attends toujours, et finalement, je suis très heureux, puisque... les derniers sondages, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, c'est pas intéressant, mais ont été, oui, c'est le patron de Classique 21 qui parle, ont été absolument exceptionnels pour nous, puisque nous avons augmenté notre part de marché de 36%, ce qui est énorme. 36% d'augmentation de part de marché, c'est énorme. On a augmenté de 53 000 auditeurs par jour, ce qui nous amène maintenant juste en dessous de la barre des 300 000. Il y a 300 000 personnes qui écoutent tous les jours Classique 21. Et dans mon émission du dimanche, j'ai augmenté très très fort encore. Enfin bon, c'est le bonheur. En tant que patron de chaîne, c'est le bonheur. Et puis cette émission, c'est le bonheur. Personne ne m'oblige à la faire. Hein. Comme c'est moi qui décide de ce qu'il y a dans la chaîne, je pourrais dire bon, j'arrête. Mais j'ai pas envie parce que je pense que c'est important en tant que patron d'une radio de pouvoir garder les mains dans le cambouis. Voilà, moi j'ai pas le syndrome El Kabash, mais je trouvais bien qu'El Kabash, qui était le patron d'Europe 1, soit quand même sur le matin en radio. Avec une séquence. Quoi. Ouais.
Et quel plaisir pour vous, finalement, de pouvoir rencontrer tous ces groupes mythiques que vous aimez, que vous continuez à aimer. Vous racontez plusieurs anecdotes, ceux qui vous ont le plus marqué, ceux que vous admirez le plus, ceux que vous aimez le moins, parce que forcément, il y a toujours des flops, des mauvaises rencontres. Et alors là, on ne va pas tous les citer, parce que les rencontres sont expliquées dans le livre, mais il y a quand même des moments étonnants. Quand vous êtes retrouvé pour une interview dans le lit de Tori Amos, c'est quand même pas courant de faire une interview dans un lit.
Non, mais c'était en tout bien tout honneur, hein, je rassure tout le monde. Mais elle avait trouvé intéressant, moi aussi d'ailleurs, parce qu'elle était ravissante, de faire l'interview dans un lit. Voilà. Enfin, dans un lit, sur un lit, quoi. Mais elle était dedans. Et là, le journaliste, elle invitait le journaliste à soit s'allonger à côté d'elle, soit à s'asseoir sur le lit. C'était très intéressant. Voilà, bon, ça ce sont des anecdotes parce que bon, j'ai les gens, mais ça dans le bouquin j'en raconte beaucoup, puis j'en ai encore sous le coude. Hein,
j'ai pas tout. La vaisselle avec Goldman, c'est assez étonnant aussi, ouais. Parce que c'est vrai que là, à la fin de l'interview, il vous dit qu'il y a une tradition chez lui, on fait la vaisselle.
Oui, tout à fait. Je suis arrivé un matin chez lui à Paris pour faire une interview, charmant, chez lui dans son appartement. Il me reçoit tout seul, pas d'attaché de presse, rien du tout. Il ouvre la porte, machin, salut, ouais, oui, voilà, je suis marquis. Ah, ok, vas-y, assieds-toi, on fait l'interview, charmant. Il me montre son studio, il m'offre des croissants, café, machin. Et puis il dit, voilà, maintenant, c'est fini. Avant de partir, vaisselle, c'est la tradition chez moi. Donc, je me suis retrouvé avec lui en train de nettoyer les tasses. Lui, il avait, moi, je frottais avec les essuies, les cuillères, les trucs, tout ce qu'on avait sali pour le petit déjeuner, voilà. Bon, c'est des anecdotes un peu idiotes, mais ça fait partie des choses assez incroyables qui peuvent arriver.
Il y a le responsable du bar qui est content aujourd'hui que vous soyez là. Le responsable du bar est content que vous soyez là aujourd'hui, il se dit tiens.
Non, mais je ne le fais plus. Hein. Je ne fais plus la vaisselle.
Alors finalement, on peut sans citer de nom, vous avez rencontré énormément de personnes. Et finalement, ce qui vous a le plus touché chez les plus grands, c'est leur côté vulnérable, leur sensibilité.
Oui, sensibilité, l'intelligence, l'émotion, la finesse, l'humanité. Et plus on monte haut dans la hiérarchie, plus ces gens sont formidables. Et c'est pas pour rien. On ne devient pas, malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré, mais on ne devient pas John Lennon par hasard. On ne devient pas Peter Gabriel par hasard. On peut devenir éventuellement Britney Spears par hasard. Bon, je dis ça gentiment. Mais je veux dire, ce sont des gens qui ont duré, qui se sont inscrits dans la longueur, et qui sont d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une humanité surprenante. On a l'impression que ce sont des intouchables comme ça, mais pas du tout. Ce sont les premiers à se lever dans une interview et à vous servir à boire, par exemple. Les gens que je ne fais plus, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire ça rarement, mais les gens avec qui on a des ennuis, c'est le petit gars qui est numéro 1 au hit-parade depuis 3 semaines et qui se la pète et qui exige une limousine pour aller de là à là, et elle doit être bleue avec des fleurs, machin. Bon, c'est avec ces gens-là, on a des ennuis et les interviews se passent très mal. Mais ces gens-là, en général, ne font pas de carrière. On ne bâtit pas de carrière sur ce genre de choses.
Ou avec les entourages, parfois, ou comme par exemple, vous citez Robert Charlebois, ça c'était un grand flop. L'interview s'est très vite terminée, mais ça, le livre est là pour poursuivre cette rencontre. Pour terminer, bon, on doit ici évoquer l'image de votre grand-père, parce que c'est lui indirectement qui est aussi à la base de votre passion, quand il vous a confié un jour une valise remplie de disques de musique.
Oui, il se fait que par hasard aussi, j'ai un illustre aïeul qui s'appelle Eugène Isaïe, que je n'ai évidemment pas connu, vu qu'il est mort en 31, je sais plus, j'ai plus l'air tout jeune, mais quand même, les âges n'ont rien. Oui, mon arrière-grand-père. Et donc son fils s'est occupé de, qui s'appelait Antoine, mon grand-père s'est occupé des éditions de son père et d'assurer une espèce de transmission, de pérennité de l'image de son père. Et il a reçu un jour toute une valise de disques de rock'n'roll d'un collègue américain. Lui, il n'écoutait, il ne savait même pas ce que c'était. Il, de temps en temps, il était bien écouté un peu de jazz, mais c'est tout. Et un dimanche après-midi, je me souviens, il était venu chez mes parents et à la maison, et il m'a donné ça. Et moi, je suis filé dans ma chambre, j'étais content d'avoir ça. J'avais un petit truc 45 tours, vraiment avec un son pourrave et tout, comme on avait tous en 65. Et ça a vraiment été un choc. Et alors, là, j'ai découvert le rock'n'roll. En fait, pas du tout. J'ai cru que j'écoutais des disques de rock, mais j'ai appris après qu'en fait, c'était des disques faits par des musiciens de jazz qui avaient repris des standards de rock. Mais ça avait suffi à me mettre le pied à l'étrier. Et j'ai tout de suite trouvé un plaisir inouï. Et vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis ça a été les Beatles. Très vite après, 65, les Beatles arrivent. Et là, alors c'était l'extase totale. Ça m'a d'ailleurs envie tout de suite d'apprendre l'anglais parce que j'ai absolument voulu savoir tout de suite ce que ces mecs-là racontaient. Parce que je trouvais que faire de la musique comme ça, ça devait être très intéressant, les paroles. Ce qui n'était pas le cas au début de la carrière des Beatles. On peut des petites chansonnettes comme Love Me Do, ça c'était bon. Ça volait pas très haut, mais les Beatles ont été vraiment pour moi, et comme pour tous les gens de ma génération, vraiment une révélation. Hein, quelque chose qui fait qu'on pouvait démarrer.
Et puis ce fameux cadeau de la communion également, un transistor, comme on disait à l'époque, qui vous a permis de vous évader quand vous étiez en pension, parce que finalement un ami de votre papa avait décidé que vous étiez un peu abruti et qu'il fallait vous placer, non ?
Oui, c'est ce que je dis dans mon livre. Mon père avait des amis formidables. Il avait un de ses amis qui était psychiatre, qui avait décidé que j'étais dingue. Bon, super. Donc, il fallait absolument m'éloigner. Et alors je me suis retrouvé genre dans un bagne au fin fond de la province de Liège, dans un internat pour AF, chez des jésuites complètement barrés. Enfin, je raconte ça dans mon bouquin, c'est super. À un moment, ça suignait. Hein. Et là, heureusement, parce que j'étais très très malheureux, j'avais 12 ans, c'était vraiment épouvantable. Et là, heureusement, j'avais reçu un transistor, parce que ça venait d'arriver, les transistors. Vous imaginez qu'on a vécu avec des transistors. Avant, il n'y en avait pas. C'était des gros postes à galène, donc le transistor a révolutionné ça. Ça fonctionnait avec des piles. Et puis là, on avait ce qu'on appelait une oreillette. Alors aujourd'hui, on a des fils blancs avec un son super dans les iPods et tout. À l'époque, c'était pas ça. Ça faisait super mal à l'oreille. C'était vraiment un son mauvais. Mais on pouvait écouter ça et ça m'a permis de découvrir tous les soirs à 22h. Il y avait couvre-feu. On pouvait rien faire, évidemment. Mais je m'évadais en écoutant un type qui s'appelle, que tout le monde a oublié maintenant, qui s'appelait Michel Lancelot et qui avait une émission qui s'appelait Campus. Et ce type-là m'a fait découvrir les Doors, Hendrix, Janis Joplin, donc toute la contre-culture américaine, toute cette vague qui arrivait. Et je lui serai éternellement reconnaissant parce que c'est quelqu'un qui a été très important pour deux raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir plus avant encore la musique, et une musique que j'ai adorée. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la radio. Et je me suis toujours dit, dans ma vie, il y a deux trucs que j'ai envie de faire, c'est de la musique et de la radio. Bah, jusque-là, je ne peux pas vraiment me plaindre et je pense que professionnellement parlant, je ne peux pas me plaindre.
Et personne ne se plaint et la pension a été remplacée par la grande maison, comme on l'appelle, la RTBF, où vous êtes depuis de nombreuses années. Pour terminer, avant que vous puissiez rencontrer les gens parmi nous pour parler avec eux et les dédicaces, Marc Isaïe, d'ordinaire, c'est vous qui posez les questions. De quel côté du micro vous préférez être, poser les questions ou y répondre ?
Mais je vais être très franc avec vous, je ne fais pas de différence. C'est marrant parce qu'on pose souvent ce genre de questions, c'est qu'on me demande qu'est-ce que tu préfères, faire de la radio ou faire de la musique. Moi je suis quelqu'un d'assez entier et pour moi je ne fais pas de différence. J'ai autant de plaisir à donner un concert avec Machiavel qu'à faire une émission de radio, qu'à être ici. Hier après-midi j'étais à votre place, j'ai passé trois quarts d'heure avec le chanteur de Simple Minds, on a fait un truc en direct, on a fait un webcast pour le lancement de notre nouveau site. C'est un homme charmant. On a passé 45 minutes à parler ensemble. La semaine prochaine, je sais qu'on a des répétitions, puis je vais être sur antenne. Donc, je suis vraiment honnête et sincère en vous disant ça, je ne fais pas de différence. Pour moi, c'est je m'exprime moi. Et j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses. Mais j'essaie toujours d'être... j'y arrive pas toujours. Hein, je serais prétentieux de dire ça, mais j'essaie toujours de donner le meilleur. Voilà.
Voilà la voix de la passion que l'on pose les questions, qu'on y réponde. Ça passe également par la voix écrite aujourd'hui à travers ce livre qui est paru chez Racine, les classiques de Marc Isaïe, 21 ans de passion. Marc Isaïe, un très grand merci et à dimanche.
Oui, à dimanche matin. Bien sûr, on compte sur vous. Merci.